Cette émission est une rediffusion.
C'est fac. Ça part ici.
Le terrain. Le sportif.
Il n'y a personne de safe ici dans la chambre. Parce que c'est pas un camp de vacances ici.
Quand tu viens à Montréal jouer devant les Sepsum, on te dit tu viens jouer à l'Université de Montréal, you're gonna compete with the best, against the best, tous les jours.
Gagner beaucoup des trophées. Merci à Ibra Kadabra.
Moi, pour moi, c'est le ballon d'or du peuple. Voilà.
So, I'm not one of... the bottle. I think I'm a special one.
I can't really hear what Jeremy says because I got my two Stanley Cup rings plugged in my ear.
Le terrain le sportif. Terrain. Bonjour, chers auditeurs, chers auditrices, bienvenue au terrain sportif tous les lundis 10h30 midi sur les ondes de CSM 89,3 FM, la plus grande radio universitaire francophone au monde. Également en rediffusion lundi soir 20h-21h30 sur CFAC, le 89,3 FM, la radio de l'Université de Sherbrooke. Wissam Bensa avec vous pour la prochaine heure et demie, entrecoupée de chansons de nouveautés francophones dont nous allons avoir dans les prochaines minutes. Et cette semaine au menu, ben, il y a un gros gala de boxe qui s'est passé du côté de, du Colisée de Laval. Je n'étais pas présent malheureusement pour des raisons personnelles, mais par contre, j'ai suivi ce qui s'est passé là-bas. Et je peux vous dire qu'on va en parler un peu parce que Jean-Pascal, ce qu'il a bien fait, ce qu'il a mal fait, qu'est-ce qui pourrait venir pour lui, Terry Ozias, comment est-ce que ça s'est passé. Puis on va prendre le temps aussi de nommer les autres combats et de dire qui a gagné. Il y avait Derek Pomerleau également qui était en action là, du côté du Colisée de Laval. Le Colisée de Laval qui est une vieille aréna, ça fait très longtemps que ça existe, du côté de Laval, qui est utilisé pour le terrain du domicile, l'aréna, pardon, la patinoire à domicile des pétroliers du nord de Laval dans la Ligue nord-américaine de hockey. Cette ligue qui a la réputation d'être une ligue de bagarreurs, mais c'est pas seulement que ça. Il y a beaucoup de beaux hockey qui se jouent là-bas dans cette ligue-là. D'ailleurs, il y a une nouvelle équipe du côté de Saint-Hyacinthe, sur la rive sud de Montréal. L'équipe dirigée par, dont les propriétaires sont Maxime Latendresse et Maxime Lapierre, pardon, et Guillaume Latendresse. J'ai demandé une demande d'accréditation pour aller voir certains matchs ou une demande d'entrevue, et ce fut le silence radio, donc seulement une demande. On va réessayer une deuxième fois, voir si on pourrait avoir une petite entrevue ici là, pour CSM CFAC 2. Ça s'appelle la nouvelle équipe de hockey de la Ligue nord-américaine de hockey, qui est composée également d'une équipe à Sorel, une équipe à Rimouski, une équipe à Jonquière, Laval, il y en a plusieurs. Puis l'équipe, ça s'appelle le Bataillon de Saint-Hyacinthe. Donc, tout un nom. Il y avait eu, il y a d'autres équipes aussi, là, Thetford Mines, il y a une équipe. Puis maintenant, il y a une équipe également à Québec, dans la région nationale de la vieille capitale. Avec, faisant partie de l'organisation, un certain Donald Brashear, qui a joué avec le Canadien de Montréal. Il faut quand même le mentionner. Donc voilà. Également, on va parler cette semaine, CF Montréal était en action samedi soir. Est-ce que ça s'est bien passé? On va en parler. On va donner les classements également, puis ce qui s'en vient pour le CF Montréal. Est-ce qu'ils ont une chance de participer aux séries? On va parler un peu également de sport universitaire. Beaucoup d'actions dans le monde du sport universitaire. Et puis également, on va parler un peu LHJMQ pour dire ce qui s'en vient, puis de d'autres nouvelles sportive d'actualité. Mais tout d'abord, je veux commencer par parler soccer parce qu'il y a quelque chose d'incroyable qui s'est passé le week-end dernier. Ça se passait hier, plus justement, du côté de Lyon. Hein, Lyon qui est cette ville française, qui n'est pas très loin d'ailleurs de l'Italie géographiquement. Il y avait un match olympique lyonnais contre l'Olympique de Marseille. C'est un match très important en France. Ce sont les deux Olympiques, ce sont les deux seuls Olympiques de la Ligue 1 qui s'appellent Olympique de Lyon et Olympique de Marseille, Olympique lyonnais pour être plus précis. Et l'Olympique de Marseille, cette saison, qui fait bien les choses avec leur entraîneur-chef De Zerbi, qui est un entraîneur italien qui a entraîné à Sassuolo, qui est un entraîneur avec beaucoup de passion, qui préconise le beau jeu. Et avant ce match-là, l'Olympique de Marseille était invaincu Et Lyon, avant ce match-là, eh bien, ils avaient une victoire, un match nul et deux défaites. Donc, ce n'était pas le meilleur au classement pour l'équipe de Lyon. Et le capitaine de l'Olympique de Marseille, il se nomme Leonardo Balerdi, c'est un Argentin, défenseur central. Il prend un carton rouge à la première minute, un carton jaune, pardon, à la première minute, et il prend un deuxième carton jaune à la cinquième minute pour deux fautes. La première qui était clairement un carton jaune, et la deuxième avec l'attaquant Lionel Lacazette qui retient son chandail, donc qui force un peu Balerdi à tomber sur lui, donc un peu sévère. Donc l'Olympique de Marseille joue à Lyon sans leur capitaine Balerdi à partir de la cinquième minute, donc il leur reste au moins 85 minutes à jouer à 10 contre 11, dans un match très important du côté de Lyon, avec Lyon qui veut se relancer. 45e minute, penalty pour l'Olympique lyonnais. Le gardien argentin Rulli, Geronimo Rulli, fait l'arrêt. Et donc, ça reste 0-0 à la mi-temps. Deuxième mi-temps, puis il faut le mentionner aussi, une première mi-temps complètement dominée par l'Olympique lyonnais. Deuxième mi-temps, Caleta Char, on dit, je crois, qui était un ancien défenseur central de l'Olympique de Marseille, marque pour l'Olympique lyonnais et fait 1-0 avec une passe de Clinton Matan. Coup de tonnerre, l'Olympique de Marseille à la 69e minute égalise avec Paul Lirola. Miracle, l'Olympique de Marseille à la 82e minute, en jouant à 10 contre 11, fait 2-1 avec un but de Ulysses Garcia. 93e minute, donc ça c'est dans les arrêts de jeu. L'Olympique lyonnais égalise grâce à Ryan Cherki. Ryan Cherki qui est un bon joueur, mais qui est sur le banc partout où il passe. Avec l'Olympique de lyonnais, il est sur le banc très souvent. Avec l'équipe de France Espoir là, des moins de 21 ans, je crois, c'est comme ça qu'on appelle ça, aux Jeux Olympiques du moins. L'équipe de France des Jeux Olympiques, il était tout le temps sur le banc. Et là, il rentre, puis il marque. Avec une passe de Clinton Matan encore une fois. Et ensuite, à la 95e minute, Jonathan Rowe fait 3-2 avec une frappe somptueuse et le joueur anglais donne la victoire à l'Olympique de Marseille. Donc, l'Olympique de Marseille qui joue à 10 contre 11 est mené 1-0 et marque 3 buts, 69e, 82e, 95e. Et ça, c'est du jamais vu. En fait, probablement que c'est déjà arrivé, mais dans un match aussi important contre un rival qui doit gagner, qui a quand même une équipe de qualité, dans un stade hostile, en jouant 10 contre 11, marquer 3 buts et mener à la fin et remporter le match, c'est incroyable. Et au classement général, qu'est-ce que ça donne dans la Ligue 1 française? On sait que Kylian Mbappé a quitté le Paris Saint-Germain. Donc le premier, c'est le Paris Saint-Germain avec 13 points en 5 matchs, tout comme l'Olympique de Marseille. Et ce sont les deux meilleures attaques de la Ligue. Le Paris Saint-Germain a 17 buts de marqués, 4 buts encaissés. Et l'Olympique de Marseille, en 5 matchs, a 15 buts marqués, 6 buts encaissés. Donc, 15 buts marqués là, en 5 matchs au soccer, c'est pas exceptionnel, mais c'est très bon. Ça veut dire que tu marques en moyenne là, 3 buts par match. Ensuite de ça, Monaco 3e, pardon, Lens 4e, Nantes 5e et Reims 6e. Et petit fait à noter, ça a été un week-end quand même spectaculaire là, dans le championnat de France. Parce qu'on se rappelle, il y a à peu près 10-15 ans, le championnat de France, c'était quand même très ennuyeux. Et là, depuis quelques années, c'est quand même... ça attire l'attention, ça attire le regard. Il y a un petit match vendredi qui se passait, vendredi dernier, et Nice... cette ville de Côte d'Azur l'a emporté 8-0 contre Saint-Étienne. Vous avez bien entendu, 8-0 contre Saint-Étienne. Même Connor McDavid et compagnie ne font pas ça. Donc, une catastrophe pour l'équipe de Saint-Étienne. Et Nice s'en est donné à cœur joie pour marquer 8 buts en un match. Et c'est un record là, en Ligue 1 au 21e siècle de l'emporter par 8-0. Là même, le Paris Saint-Germain, je crois, ne l'a pas fait. Donc voilà, c'était la petite nouvelle d'entrée pour parler un peu du championnat de France. Maintenant, avant qu'on commence à parler du CF Montréal après ça, on va à la musique, écouter nos nouveautés francophones, puis on revient après ceci. Vous écoutez le Terrain Sportif. De retour sur les ondes de CSM et de CFAC, vous écoutez l'émission Le Terrain Sportif tous les lundis 10h30 midi sur les ondes de CSM et lundi soir 20h-21h30 sur les ondes de CFAC. On vient d'entendre trois chansons, Alléluia, Rêve Mélancolie, et ensuite c'était Voyage à la mer de l'artiste Solitaire. Maintenant, je veux parler, avant de parler du CF Montréal, on va parler championnat turc. On est beaucoup dans le soccer cette semaine. Vous le savez, le soccer, c'est ma passion. Mais je parle quand même LHMQ, puis les actualités universitaires, la boxe, tout ça. Bon, on parle pas du hockey des Canadiens ici parce que, ben, c'est ça. C'est déjà assez médiatisé, puis on est une radio universitaire. Donc, je considère que je donne une tribune un peu au sport moins connu universitaire. La boxe, LHMQ... le baseball du Vermont également, quand il y en a, les ligues universitaires à travers les États-Unis également. Mais là, on va faire un peu de publicité aux Turcs de la Turquie et d'Istanbul particulièrement. Parce que samedi dernier, il y avait le match le plus important en Turquie. Et selon moi, le match qui est dans le top 5 mondial en termes d'ambiance, d'intensité et de fans... avec de la passion, avec 4 P majuscules. Et j'ai nommé le derby entre Fenerbahçe et Galatasaray. Il faut le mentionner, ce sont deux équipes d'Istanbul, mais comme vous le savez, Istanbul, c'est une ville qui est sur deux continents, l'Afrique et l'Océanie, non, c'est pas vrai, entre deux continents, l'Asie et l'Europe. Et à Istanbul, il y a beaucoup d'équipes. Mais la seule équipe... si je ne m'abuse, cette année, qui est sur le côté asiatique d'Istanbul, eh bien, c'est Fenerbahçe. Et Fenerbahçe, qui est l'entraîneur de Fenerbahçe, un certain portugais, qui se nomme José Mourinho, qui a tout gagné dans sa carrière. Un entraîneur incroyable qui maintenant, certains diront qu'il est sur la fin, mais moi, je le dis et je signe, c'est un très grand entraîneur et le fait qu'il soit Fenerbahçe, c'est incroyable. Et pour ceux qui se demandent comment on fait pour traverser de la rive européenne à la rive asiatique en traversant le Bosphore pour aller en Asie, bien c'est simple, c'est un ferry, un traversier. Un traversier pour les gens qui veulent y aller à pied, évidemment, parce qu'il y a des ponts et il y a le métro qui passe sous l'eau à cet endroit-là. Et là, à l'heure actuelle, eh bien, Istanbul, ils ont plusieurs équipes. Ils en ont 6. Et sur les 6, la seule qui est sur la rive asiatique, c'est Fenerbahçe. Et juste pour faire un peu de voyage également dans cette émission de radio, demandez-vous 2 secondes, combien est-ce que ça coûte pour traverser un continent en traversier à Istanbul? 5 piastres, 10 piastres, 20 piastres, pensez-y. Eh bien, pour traverser de la rive européenne à la rive asiatique, ça vous coûte tout simplement un billet de métro. Combien coûte un billet de métro à Istanbul en Turquie? C'est environ 1$. Et puis ça, c'est pas des blagues. C'est ça que ça coûte environ, c'est 1$. Et ça a une vue incroyable. Quand vous traversez ça, vous voyez tous les oiseaux là, qui volent. C'est comme dans les cartes postales, là, avec la photo, avec les mosquées, les ponts, l'eau. Vous prenez un petit thé, ça coûte à peu près, je vous dirais, 75 cents, même pas. Vous buvez ça là-dedans. Et comme on dit en anglais, « you enjoy the ride ». Ça, c'est Istanbul, mesdames et messieurs. Et il faut le dire aussi qu'Istanbul, c'est une très belle ville. En termes, là, je retire mes mots, en fait. C'est pas une très belle ville. C'est une ville qui a quelque chose de particulier. Parce que c'est un des endroits, probablement le pays, où est-ce que la passion pour le soccer est la plus grande au monde. Je mettrais peut-être l'Argentine avec. Évidemment, il y a d'autres pays, là aussi, c'est très fort, là, la Serbie, la Grèce, le Brésil, mais la Turquie, c'est quelque chose d'autre. C'est un pays qui a des très beaux monuments, c'est un pays où est-ce que la bouffe est exceptionnelle, c'est un pays où est-ce que la qualité de vie pour quelqu'un qui arrive avec des dollars canadiens, américains ou des euros, c'est pas cher, malgré l'inflation. Parce que pour les Turcs, maintenant, c'est très cher. Il y a beaucoup d'inflation là-bas. Et au soccer, c'est la passion numéro un. À présent, en termes de beauté de la ville, pour dire que ça, je ne l'ai pas trouvé si exceptionnel que ça. Ça m'a déçu. Je trouvais que les bâtiments, les mosquées étaient fantastiques, c'était beau. Mais j'ai trouvé que l'architecture, j'étais moins impressionné que quand j'ai fait un tour en Espagne, par exemple, ou en Italie, et dans ces places-là. En France, en Angleterre, Pays-Bas, l'Allemagne, etc., etc., etc. Mais ça reste que c'est un endroit particulier. Et mine de rien, ce week-end, ben, il y avait Fenerbahçe-Galatasaray. Et Fenerbahçe, avec José Mourinho, eh bien, ils ont perdu à domicile 3 buts à 1 avec des buts pour Galatasaray de Sarah, de Dries Mertens et de Livakovic. Et ça, c'était un but contre son camp du gardien de but. Edin Dzeko, le Bosniaque, a marqué à la 63e minute sur un pénalty pour faire réduire le score là, à 3 buts à 1, mais les carottes étaient déjà cuites du côté de la rive asiatique de Istanbul. Et maintenant, au classement, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, Galatasaray est premier avec 18 points et Fenerbahçe est deuxième avec 13 points. Beşiktaş est troisième avec 13 points, mais ils ont un match en main, donc ils pourraient aller jusqu'à 16 points. Il y a Beşiktaş qui joue là-bas. L'ancien attaquant international Ciro Immobile qui est rendu du côté de Beşiktaş. Pour ceux qui ne le savent pas, Beşiktaş, là, c'est un quartier branché de la Turquie, d'Istanbul. Parce que ceux qui pensent là, qu'à Istanbul, ça ne fête pas à cause de ci, à cause de ça, à Istanbul, il y a toutes sortes de cultures, il y a toutes sortes de personnes. Et puis Beşiktaş, c'est le quartier branché d'Istanbul. Les terrasses, tout le monde fume, les gens boivent, les gens sortent, les gens dansent. C'est vraiment là, comme ici, sinon encore plus fêtard que du côté de Montréal et du Québec. Petite parenthèse fermée. Et là maintenant, qu'est-ce que ça veut dire pour Fenerbahçe? Eh bien, ça veut dire que déjà, ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas gagné le titre de champion de Turquie. Là, cette année, ils ont payé beaucoup d'argent pour aller chercher José Mourinho, parce que ça se paye un entraîneur comme ça, là, c'est pas gratuit. Il joue dans un stade qui a à peu près 48 000 places, ce qui est énorme. C'est un gros stade, juste là, c'est peut-être à peu près deux fois le Centre Bell. Et là, il y a quelques semaines de ça, ils se sont fait sortir de la Ligue des Champions, donc ils ne se sont même pas qualifiés pour la Ligue des Champions à 36 équipes. Et donc, pour José Mourinho, après avoir perdu la Ligue des Champions, ben là, il perd le match le plus important de la saison parce que c'était du côté de Fenerbahçe, donc à domicile. Le dernier titre pour Fenerbahçe, là, c'est en 2014. Ça fait plus que 10 ans qu'ils ne l'ont pas gagné. C'était la saison 2013-2014. On est en 2024-2025. Donc, ça va mal du côté de Fenerbahçe et je tenais à le mentionner. Je tiens à mentionner aussi que si jamais vous êtes un intéressé du sport, que vous aimez le sport en général, que ce soit le hockey, le basket, le football, il y a très peu d'expériences que vous allez vivre dans votre vie autre que d'aller voir un match de soccer à Istanbul et surtout un match du Big Three, c'est-à-dire Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe. Pour votre argent canadien, ça ne vous coûtera pas grand-chose, mais c'est très compliqué pour faire pour avoir des billets pour entrer dans un stade en Turquie parce qu'ils ont ce qu'on appelle ici là, ce qu'ils appellent l'application PASSO, P-A-S-S-O. Ça, c'est pour réduire en fait la violence puis pour voir qui est dans les stades. Et quand tu parles pas turc comme moi, c'est l'enfer pour faire une carte. J'ai été capable quand j'y étais il y a un peu moins d'une année, mais c'était l'enfer. Et à Istanbul, malgré ce que beaucoup de personnes pensent, l'anglais n'est pas très parlé. Et donc, il faut se débrouiller. Puis si tu n'es pas capable de te débrouiller, ben tu fais comme mon ami coréen que j'ai rencontré là-bas. Tu te fais arnaquer, tout en sachant que tu te fais arnaquer. Mais au moins, tu as un billet sans avoir à te faire un compte PASSO. Il l'a payé, je crois. Combien il l'avait payé? Il l'a payé à peu près un bon 80$ à peu près. Je crois qu'il l'a payé, le billet. Alors que le billet officiel était à peu près une vingtaine de dollars, une quinzaine de dollars. Et donc, voilà. Ça, c'est ce qui se passe du côté de Istanbul. Si tu vas là, eh bien, il faut que tu t'attendes à soit payer plus cher par des revendeurs de billets ou tu te débrouilles puis tu essayes de baragouiner un peu le Turc ou tu te fais un ami turc qui peut t'aider. C'est pas mal ça les deux options. Et ceci dit, quand mon ami coréen a acheté son billet puis qu'il se faisait vendre 4 à 5 fois le prix du billet, le tout se passait devant un policier d'Istanbul qui riait bien de la scène et qui trouvait ça assez amusant. Donc voilà des petites anecdotes de voyage du côté d'Istanbul. Tout ça pour dire que nos amis de Fenerbahçe, eh bien, ils ont perdu le match le plus important de leur saison à domicile contre Galatasaray. C'était deux chansons back-à-back, ça à poudre des anticipateurs et les pieds chez toi des breastfeeders. Maintenant, on va parler de notre équipe montréalaise, un endroit beaucoup plus calme qu'Istanbul en termes d'ambiance, même si plus tranquille, donc des fois aussi ça fait du bien. Et surtout, moins de fumée, parce que dans les stades de soccer à Istanbul, il y a environ, je vous dirais, là, 9 hommes sur 10 qui fument. Et donc, si t'aimes pas la fumée secondaire, va pas dans un stade de soccer à Istanbul. Je vais pas généraliser, là, mais tous ceux que j'ai faits, c'était ça. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe. Ou bien, va voir un stade à Istanbul ou en Turquie où est-ce qu'il y a personne. Comme ça, il n'y aura pas de fumée secondaire. Côté CF Montréal, il y avait un match contre Chicago. Chicago qui est une équipe très ordinaire de la Ligue en MLS, il faut le mentionner. À l'heure actuelle, Chicago, ils sont avant-dernier dans l'Est avec 29 points. Et Chicago, il y a seulement deux équipes dans toute la Ligue qui sont pires qu'elles. Et notamment Nouvelle-Angleterre, mais qui ont deux matchs en main. Donc très probablement vont surpasser Chicago. Donc la seule équipe réellement pire que Chicago, c'est la risée de toute la Ligue. C'est San Jose Earthquake, le tremblement de terre, avec 69 buts accordés en 30 matchs. Donc le chiffre magique est 18 buts. Donc 5 victoires en 30 matchs là. Donc ça, c'est pas très Jojo, hein, comme on dirait Jojo Savard. Donc maintenant, l'alignement partant pour ce match-là. Samedi dernier au stade Saputo, je n'y étais pas encore une fois. Hein. Puis même si j'aurais pu y aller, si j'avais pu y aller, j'aurais été au Galot Box de Jean-Pascal à la place, là, parce qu'il faut choisir des fois. Dans les buts, Jonathan Sirois, défense à 3 avec Alvarez, le Colombien, Gabriel Corbeau, l'Italien, George Campbell, l'Américain. Les pistons, Raheem Edwards, le Canadien à gauche, Marshall Routy à droite, Canadien également. Nathan Saliba en milieu de terrain, Samuel Piette également. Et les trois devant, Bryce Duke, Caden Clark et Joseph Martinez. Et Joseph Martinez ouvre la marque à la 21e minute et ensuite Caden Clark marque à la 74e minute. Et c'est une victoire de 2-0 de Montréal contre Chicago. C'est une victoire quand même qui était envisageable, mais c'était surtout un match à ne pas perdre pour le CF Montréal. Il fallait absolument aller chercher les 3 points et on le sait très bien que le CF Montréal s'est déjà fait battre à domicile par des équipes contre qui elle ne devait pas perdre, cette équipe-là. Et là, qu'est-ce qui s'est passé dans ce match-là? On va vous donner un peu de statistiques pour vous montrer que les expected goals pour le CF Montréal, c'était 1.15 contre 0.73 pour Chicago. Deux grosses opportunités de chaque côté. Les corner kicks, 5 pour Chicago, 0 pour Montréal. Les passes, plus de passes de Chicago et un carton jaune pour le CF Montréal, aucun carton jaune pour Chicago. Donc c'est un match qui a été joué dans un bon état d'esprit. Et malgré ça, là, Chicago Fire, ils ont marqué deux grosses occasions. Donc ça aurait pu facilement là être un match nul, mais on va prendre les 3 points parce que là, au classement, qu'est-ce que ça donne pour le CF Montréal? Dans l'Est, parce que vous le savez, il y a la conférence de l'Est et de l'Ouest et c'est par conférence qu'on fait les séries éliminatoires ou pas. À l'heure actuelle, dans l'Est, Miami, premier, 64 points. Deuxième, Cincinnati. Troisième, Columbus. Quatrième, Red Bulls de New York. Cinquième, Orlando. Sixième, Charlotte. Septième, New York City. Huitième, ils ont perdu le week-end dernier, Toronto FC, avec 36 points en 31 matchs. Philadelphie, neuvième, avec 30 matchs joués, 36 points. Et le CF Montréal, 30 matchs joués, 34 points. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que si le CF Montréal gagne le match en main qu'ils ont sur Toronto, ils passeraient devant Toronto FC qui ont perdu. Derrière le CF Montréal, il y a trois équipes à 33 points, donc avec un petit point de différence, soit Atlanta, Nashville, DC United. Chicago, je l'ai déjà mentionné, 29 points et la Nouvelle-Angleterre, 28 points en 29 matchs. Par contre, on le sait, la dernière place qui donne accès aux séries, c'est la 9e place. c'est Philadelphie qui l'a en ce moment. Après ça, c'est Toronto avec 36 points, le même nombre de points que Philadelphie. Donc, les 8e et 9e sont sur 36 points. Mais par contre, Toronto FC a 11 victoires et Philadelphie en a 9. Et on sait que le critère en cas d'égalité, c'est le nombre de victoires. Donc, en cas d'égalité de points avec Toronto FC, il est fort probable que toutes les équipes derrière Toronto perdent le tiebreaker. Donc, c'est très important. Les équipes doivent aller gagner. Ils doivent surpasser Toronto s'ils veulent éliminer Toronto des séries éliminatoires. Qu'est-ce qui s'en vient pour le CF Montréal maintenant? Samedi qui s'en vient, 19h30, contre la pire équipe de la Ligue, San Jose Earthquake. Et s'il y a une victoire contre San Jose, ça va faire 3 victoires pour le CF Montréal à leurs 4 derniers matchs. Ce qui serait incroyable, là-dedans, il y a un match nul de 2-2 contre la Nouvelle-Angleterre qui a une saveur de victoire parce que le CF Montréal perdait 2-0 dans ce match-là. Ensuite de ça, le 2 octobre, le CF Montréal se déplace du côté d'Atlanta. Atlanta qui, au classement, est à 1 point derrière Montréal. Donc, un match super important. Mais un match que le CF Montréal peut gagner. C'est pas impossible. Et ensuite de ça, il se déplace du côté de Charlotte le 5 octobre pour y affronter le Charlotte FC. Et on termine la saison à domicile contre New York City FC. C'est un coup d'envoi de 18h. Là, ça, c'est le 19 octobre. C'est rare d'ailleurs les coups d'envoi de 18h dans la Ligue. C'est tout le temps 7h30 là, pour le CF Montréal. Donc, peut-être une particularité parce que c'est le dernier match du calendrier. Donc, probablement qu'ils veulent que toutes les équipes jouent leur soccer en même temps. Donc, voilà pour le classement du CF Montréal. Par contre, quand on regarde le classement du CF à l'extérieur, cette année dans la conférence de Ligue, dans la conférence de l'Est, pardon, c'est la pire équipe de l'Est avec en 15 matchs, 2 victoires, 5 matchs nuls et 8 défaites. En 15 matchs à l'extérieur, le CF Montréal a accordé 38 buts. C'est le pire nombre de buts encaissés par une équipe à l'extérieur dans la conférence de l'Est. Je dis ça parce que les matchs à Charlotte et du côté d'Atlanta vont être difficiles à gagner. Et vu que le CF Montréal a une très mauvaise fiche à l'étranger, il va falloir quand même aller peut-être essayer de chercher un point, puis surtout battre San Jose et New York à domicile si on veut avoir une petite chance, un petit espoir, de faire les séries éliminatoires. Donc le CF Montréal, avec ses 38 buts encaissés à l'extérieur, c'est la pire défense de toute la Ligue à l'extérieur avec ce nombre. Seuls nos amis de San Jose ont 40 buts encaissés, donc c'est 2 de plus que le CF Montréal. Donc voilà. Également, dans l'Ouest, on va le mentionner un tout petit peu. Vous savez quoi? On va laisser tomber l'Ouest. On n'a pas le temps. On va y aller tout simplement avec les meilleurs buteurs et les statistiques dans la Ligue de la MLS. Tout d'abord, avec notre CF Montréal, le meilleur buteur, c'est Ibrahim Sounoussi avec 6 encore. Lui qui joue presque pas d'ailleurs. Il a marqué ses buts dans la première partie de saison. Et maintenant, Joseph Martinez avec son but. Est à 6 buts cette saison, donc à égalité avec le meilleur buteur du club. Et Mathias Cocaro en a 4, Bryce Duke en a 3. Et Caden Clark, la nouvelle acquisition du CF Montréal, a 2 buts à ses 3 derniers matchs. Donc c'est quand même très bon pour le joueur américain. Donc voilà, c'est dit pour le CF Montréal. Donc Joseph Martinez qui fait une saison correcte avec ses 6 buts cette saison. Il a été blessé, il a manqué des matchs. Donc c'est sûr qu'il aurait pu plus marquer que ça. Mais c'est quand même le meilleur buteur du club avec Ibrahim Sounoussi. Mais on aurait espéré au moins là la dizaine de buts pour Joseph Martinez de cette saison, si vous me demandez mon avis. C'était la chanson de Marguerite Thiam, Rêve brisé. Et avant ça, eh bien, c'était Charlotte Brousseau, avec la chanson Géré. Donc, vous écoutez toujours le terrain sportif sur les ondes de CSM et de CFAC, les deux radios universitaires qui vous proposent du contenu sportif très régulièrement. Donc, maintenant, on va y aller avec la boxe et Jean-Pascal, puisqu'il y avait un combat du côté du Colisée de Laval, ça se passait samedi soir dernier. Puis il faut le mentionner, là, Jean-Pascal, c'est un des plus grands boxeurs de l'histoire du Québec. Et non seulement ça, c'est un des plus populaires qui fait venir les foules, que ce soit à la Place Belle, que ce soit au Casino, que ce soit au Centre Belle, que ce soit au Colisée de Laval. Les gens vont ou iront pour voir Jean-Pascal. Et là, il y avait un combat très important contre Terry Ozias. Pour Jean-Pascal, c'était le combat de la dernière chance, donc une défaite pour lui. Ça signifiait que, bon, sa carrière allait probablement être terminée. Et pour Terry Ozias, eh bien, lui, il voulait prendre le spotlight que Jean-Pascal a eu pendant toutes ces années. Et il disait en conférence de presse, là, lors des entraînements, il y a à peu près 2 semaines, que c'était son tour, que Jean-Pascal a eu la gloire, il a eu ses bons moments, et que maintenant, c'est au tour de Terry Ozias. Et ce qui s'est passé, c'est que tout d'abord, au début, dans les premières rondes, Jean-Pascal s'est un peu fait mal à la jambe en donnant un jab à Terry Ozias. Mais après ça, il a été en mesure de continuer. Il a ouvert la machine au 9e round pour essayer de gagner ça. Puis au 10e round, alors qu'il était en avance, selon les juges, par 2 des 3 juges, avec un pointage de 89-82, 86 et 85, 86 contre 85, pardon, et... un des juges donnait Ozias gagnant avec 87 à 84. Et donc, il devait remporter le dernier round pour éviter un verdict nul ou peut-être même perdre. Et à un certain moment, au 10e round, Terry Ozias a baissé la garde et, avec un jab, un coup de poing sur le côté du visage de Jean-Pascal, eh bien, il a mis KO Terry Ozias dans le dernier round. Et puis, il l'a emporté. Et ce que ça signifie pour Jean-Pascal, c'est que maintenant, il aura l'opportunité de peut-être retourner dans le spotlight et faire des gros combats. Lui qui, certainement, la meilleure partie de sa carrière est terminée, mais il lui reste encore quelques combats. Et il a dit après le combat, « Mon expérience a fait la différence. » Également, Terry n'avait jamais combattu au-delà d'un 6e round et je savais qu'à partir du 4e ou 5e round, il serait vraiment fatigué. Je voulais l'amener dans les profondeurs de l'océan. C'est ce qu'il a dit et c'est ce qu'il a fait. Sincèrement, c'était un bon combat. C'était un peu serré. Je croyais que j'étais en avance étant donné que c'est moi qui fonçais sur Terry. C'est vraiment moi qui ai donné les meilleurs coups. Mon plan de match, c'était d'amener le combat dans les rounds qu'il n'avait jamais vus. Parce que, bon, Terry a moins d'expérience que Jean-Pascal, il faut quand même le dire. Et là, aux abords du ring, qui était présent, le néo-écossais Ryan Rodzicki, il a rapidement rejoint Pascal entre les câbles dans le but de mousser un affrontement pour le titre intérimaire des lourds légers du WBC qui pourrait avoir lieu le 2 novembre prochain. Notez-le à votre agenda, c'est pas officiel, ça va dépendre de l'état de santé du boxeur québécois qui s'est déchiré un muscle de la cuisse gauche la semaine dernière à l'entraînement. Et donc, c'est ce qui a causé peut-être un peu de douleur là, lors du combat et un inconfort. Rozicki, lui, qui compte 19 KO, 20 victoires, une défaite seulement. Il a offert une opposition farouche à Oscar Rivas lorsqu'ils ont croisé le fer pour la ceinture des super lourds légers du WBC en octobre 2021. Et là, ça serait un combat d'envergure qui va attirer encore plein de foule. Donc moi, j'étais neutre dans ce combat-là. J'ai fait des entrevues avec les deux pugilistes. Les deux ont été très respectueux. Les deux ont répondu aux questions. Terry Ozias, c'est vrai, il a combattu la maladie du cancer puis il a pu revenir dans un ring de boxe pour battre pour un combat très important. Donc j'avais une petite envie qu'il l'emporte. Mais Jean-Pascal, avec tout ce qu'il a fait pour la boxe au Québec, il méritait également d'aller avoir une autre ceinture à son actif, puis surtout d'avoir peut-être un dernier combat contre Ryan Rozicki, ou même un avant-dernier, qui sait. Également, dans cette ronde de boxe, qu'est-ce qui s'est passé? Derek Pomerleau l'a emporté. Mais ça n'a pas été facile, c'est sa 10e victoire de suite, 8e par KO, donc il a 8 KO, il a 10 victoires. Puis c'est devenu le plus récent boxeur québécois à ajouter le nom du vétéran Marcelo Cáceres à son tableau de chasse en passant le knockout à l'Argentin, 31 secondes seulement après le début du 5e round. Parce que Cáceres, lui, il a eu un préavis de 2 semaines. Pomerlo a dû se réhabituer à un autre boxeur, puisque avant il était prévenu qu'il avait peut-être un autre boxeur contre qui il allait affronter. Également, Danny Mallett bat Petar Gravilovic par l'arrêt de l'arbitre à 2 minutes 22 du premier round. Ça, c'est intéressant parce qu'il y avait un peu de bisbille entre les deux hommes lors de la séance d'entraînement ouverte aux médias. Puis, Danny Mallett avait dit quelque chose du genre, je cite là, il a dit « Si tu me retouches une fois, je te calisse une volée. » Donc, c'est ce qu'il avait dit. Quelque chose comme ça dans ces lignes-là. Excusez pour le langage, j'ai cité le pugiliste parce que je crois que Petar Gravilovic avait peut-être fait quelque chose. Je n'ai pas vu ce qui s'est passé. Mais là, il a pris sa revanche, Danny Mallett, parce qu'au premier round, après 2 minutes 22, c'est une victoire claire, nette et précise. Hubert Poulin bat David Logue, David Canuel bat Carl de Montigny, Guillaume Gosselin bat Serge Ntetu, Simon Rissler bat Yann Trottier, Simon Lagarde gagne son premier combat, bat Raphaël Péloquin, et Alex Gagnon et Maxime Lepage se livrent un verdict nul majoritaire de 38 à 38 deux fois, avec une carte également de 40 à 36. Donc voilà, quand deux juges disent qu'il y a égalité, eh bien même si un troisième juge donne la victoire à un des deux, ça reste que c'est un verdict nul majoritaire. Et beaucoup de gens, là, vous irez voir sur la page d'RDS, beaucoup de gens parlent de boxe, beaucoup de gens parlent de Jean Pascal. Jean Pascal est très populaire au Québec, puis la boxe, contrairement aux autres sports, c'est pas quelque chose qu'on peut voir à toutes les semaines ou même plusieurs fois par semaine, comme le hockey ou le baseball ou le basket. Et donc, quand il y a un gala de boxe, le monde en parle, les gens y vont, et peu importe le prix des billets. Donc voilà, félicitations là à Jean Pascal, et on espère le revoir bientôt, le 2 novembre, parce que si c'est le 2 novembre, je serai encore au Québec, et puis j'irai supporter et voir Jean Pascal, cette fois-ci, contre le néo-écossais de la Nouvelle-Écosse, j'ai nommé notre ami Ryan Rosicky. C'était la chanson « Calisse-moi là » de Lisa Leblanc sur les ondes de CSM et de CFAC. Vous écoutez l'émission Le Terrain Sportif. Il nous reste quelques petites minutes avec vous. On va en parler. On va parler de sport universitaire un peu, là, la crème du volleyball masculin de U Sports. Donc ça, c'est comme la NCAA au Canada. Elle sera à Windsor, en Ontario, donc tout près de Détroit. Là, c'est à côté, traverse le tunnel, t'es rendu à Détroit, en 2026. Et donc, c'est la première fois qu'un championnat de U-Sport aura lieu à cet endroit depuis son inauguration en 2022. On parle là dans les installations de pointe du Toldo Lancer Center. Et pour le championnat canadien de volleyball masculin en 2025, eh bien, ça va se passer du 21 au 23 mars à Brandon, au Manitoba, puisque vous savez que les équipes se déplacent, ça change, il y a une rotation pour les championnats universitaires. On se rappelle très récemment, le printemps dernier, eh bien, le championnat canadien de basketball, ça se passait du côté du Québec à l'Université du Rouge et Or de l'Université Laval. Et ça a été remporté d'ailleurs par l'équipe masculine de basketball. Au football universitaire, qu'est-ce que ça donne? Il y avait deux matchs le week-end dernier. Le Rouge et Or de l'Université Laval l'emporte 29-2 à domicile au Stade TELUS contre le Verreur de l'Université Sherbrooke. Et les McGill Redbirds l'emportent 21-17 au Concordia Stadium contre les Stingers de l'Université de Concordia. Au classement du football, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, le Rouge et Or invaincu, 4 matchs, 4 victoires. Les Carabins, 2e, 3-1. McGill, 2 victoires, 2 défaites. Concordia, 1 victoire, 3 défaites. Et le Verreur de l'Université de Sherbrooke, 0 victoire, 4 défaites. Vous le savez qu'au football américain, il y a seulement une équipe qui est éliminé des playoffs, et donc à l'heure actuelle, c'est le Verreur de l'Université de Sherbrooke, et ça va très mal pour Sherbrooke, puis en plus, leur prochain match, le 28 septembre, eh bien, ça va être contre les Carabins de l'Université de Sherbrooke, puis d'ailleurs, les Carabins de l'Université de Montréal, pardon, qu'est-ce que je dis là? J'étais un peu fatigué, là, matin, là, Carabins de l'Université de Montréal, voilà. Et c'est toujours diffusé sur les ondes de CFAC, by the way, le 88,3 FM, si vous voulez suivre les matchs du Varior de l'Université de Sherbrooke. Donc voilà, c'est ce qui m'a fait cette émission. Merci beaucoup d'avoir été là. C'était Wissam Mensta au micro pour Le Terrain Sportif. Je vous remercie et on se revoit la semaine prochaine. Soyez prudents et au revoir.